Hello, c'est Margot, la fondatrice d'Okan Studio. Bienvenue dans Point Fort, le podcast qui te donnera les armes de la confiance en toi. Dans cette première saison, 10 invités font tomber le masque pour nous parler en toute franchise des échecs et des doutes qu'elles ont dû surmonter pour aller au bout de leurs ambitions. Alors écoute, j'espère que tu te sentiras confiante et rassurée pour libérer à ton tour ta force intérieure. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance de m'entretenir avec Anne-Sophie Vidal, gagnante de l'émission Le meilleur pâtissier sur M6, autrice, créatrice de contenu, mais aussi fondatrice de la marque d'ustensiles de cuisine Casa Vida. Tout commence par un blog culinaire qu'elle crée en parallèle de ses études.
Le blog a eu pas mal de succès assez rapidement, mais il n'y avait pas vraiment de business model.
Enceinte à Londres, elle peine à trouver du travail dans la mode. Elle prend alors une décision qui va changer radicalement sa vie.
Après, il faut savoir que le meilleur pâtissier, bon, on va pas se leurrer, il cherche des personnages. C'était l'époque de Desperate Housewives et tout le monde me comparait à Brie Van Der Kamp parce que je suis rousse et que je faisais des cupcakes.
Anne-Sophie ne se laisse pas impressionner par la compétition.
J'avais quelque chose que peut-être d'autres n'avaient pas, c'est que j'étais méga créative.
Elle remporte le concours, publie un premier livre de cuisine et c'est finalement le confinement qui lui permettra d'exploser sur les réseaux sociaux.
J'étais la première à proposer des lives de recettes.
La création de Casa Vida marque un nouveau tournant dans son parcours.
Là, une gamme d'ustensiles de cuisine, ça coûte très cher à développer. Fallait rêver grand pour que ça arrive. Ouais.
Où puise-t-elle son inspiration et sa détermination? Comment concilie-t-elle son rôle de mère et sa casquette de chef d'entreprise? Est-elle sensible au regard des autres? Je t'invite à écouter ma croustillante conversation avec Anne-Sophie Vidal. Très bonne écoute! Alors, Anne-Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va ce matin?
Très bien, très bien. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Il fait beau, tout va bien.
Trop cool. Donc, avant de te demander de te présenter, j'ai quelqu'un qui l'a fait pour toi. Donc, on va l'écouter, si tu veux bien.
Oula! Là, j'avoue que je m'y attendais pas.
Bonjour la team Point Fort, je suis Antoine, le mari d'Anne-Sophie. J'espère que vous allez faire une bonne interview. Alors pour moi, le vrai point fort d'Anso, c'est de savoir évoluer entre des moments où elle déborde d'énergie et de créativité et des moments beaucoup plus posés où elle prend le temps de se plonger dans ses pensées et d'écouter ses intuitions. C'est ce point fort qui lui a permis de se lancer dans un parcours très particulier où elle a pris pas mal de risques avec des choix souvent précurseurs. Je commence par la pâtisserie qui a joué un grand rôle pour elle au début. Je l'ai vue travailler hyper dur pour acquérir les techniques. Je me souviens de l'avoir recommencé 10 fois des recettes de macarons jusqu'à 4 du mat pour atteindre la perfection. Mais le résultat est là. Ses gâteaux sont vraiment devenus au fil du temps sa manière d'exprimer ses émotions. Et c'est incroyable de voir toute l'énergie qu'elle met à partager cette passion. C'est comme ça que Fashion Cooking a pris son envol avec des centaines de recettes et de techniques qu'elle partage avec une communauté hyper bienveillante qui la soutient et l'encourage. Et enfin, dernière aventure en date, elle est maintenant devenue une designeuse et businesswoman de choc avec une nouvelle marque qui cartonne. Je parle bien sûr de Casa Vida. Alors là, elle s'est mis un énorme challenge. Elle design et fait produire ses propres ustensiles de cuisine. Et surtout, elle fait partie d'un écosystème d'entrepreneuses qui se serrent les coudes, qui se donnent plein de conseils. Bref, en s'entourant bien, elle met toutes les chances de son côté pour réussir. Donc voilà, je suis impressionné par tout ce talent dans ce qu'elle entreprend et j'espère qu'elle va tout vous raconter dans l'interview.
Je suis assez émue, j'avoue, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai l'impression d'être un EVJF où on t'a fait enregistrer le mari, mais là, c'est vrai que c'est assez rare que j'entende mon mari s'exprimer sur moi de façon extérieure et c'est hyper touchant. Donc, il fait aussi partie de la raison pour laquelle je réussis, parce que il me soutient vraiment énormément et c'est merci beaucoup, c'est un très beau cadeau.
Bah écoute, je suis ravie. Donc il a dit plein de choses déjà très intéressantes, des petits cailloux que je vais relever bien évidemment. Donc est-ce que tu peux te présenter avec tes propres mots pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas?
Alors je suis Anne-Sophie Vidal, je suis créatrice de contenu et influenceuse pâtisserie et famille depuis très longtemps. Avant même que le terme influenceuse existe, j'avais un blog de cuisine que j'ai créé il y a 13 ans ou 13-14 ans même. Maintenant, ça commence à vraiment dater. Et je me suis un petit peu adaptée à tous les réseaux sociaux qui sont arrivés au fur et à mesure. Mais l'idée, c'était vraiment de partager mes recettes. Et puis, j'ai participé à l'émission du meilleur pâtissier en 2014 que j'ai gagnée. À l'époque, j'étais enceinte, donc c'était
c'était vraiment une expérience importante. Et ensuite, ça correspondait un peu voilà, l'engouement pour Instagram. Donc, j'ai continué à créer des recettes sur Instagram et toujours sur mon blog. On me demandait tout le temps, j'avais beaucoup de demandes de ma communauté sur les ustensiles que j'utilisais et ça commençait vraiment à me travailler. Et j'ai eu, à l'approche de la quarantaine, donc ça fait il y a 2 ans, je me suis vraiment focalisée sur l'idée de lancer des ustensiles de cuisine, ce qui était vraiment... c'est un challenge, quoi, parce que tout le monde développe pas des ustensiles de cuisine, mais je me disais que s'il y avait une personne qui pouvait le faire, c'était moi. Et donc, j'ai créé Casa Vida, qui a été lancée en mars l'année dernière. Donc, ça fait 1 an que la marque est lancée. Et j'ai déjà développé beaucoup de produits. Et donc, je suis vraiment très, très fière du résultat. Et surtout, je suis très heureuse parce que les produits parlent vraiment aux gens. Et donc, c'est que des ustensiles que j'ai créés avec un angle design utile et durable. Et je voulais vraiment qu'il y ait ce trio, ces 3 piliers qui sont très, très importants pour moi. J'imagine qu'on va en reparler.
Mais oui, bien sûr. Donc voilà, tu es une slasheuse.
Totale slasheuse. Alors là, j'ai eu 10 vies, quoi.
Donc, on va reparler un peu de tout ça. Mais avant ça, j'aimerais un peu remonter dans le temps et te demander où est-ce que tu as grandi.
Alors, j'ai grandi à côté de Paris, j'ai jamais bougé. Alors j'habitais à Neuilly, donc il y avait la ligne 1 qui était ma porte d'entrée vers Paris. J'ai quand même été biberonnée à Paris, le métro et tout ça. C'est vraiment là où je me sens bien.
Et tu dirais que t'étais quoi? Enfin, tu étais quel type de petite fille?
J'ai toujours été créative, pas assez réservée. Pas extrêmement sociable, je dois dire. C'est venu après. Et j'étais très dans l'intellectuel, je lisais beaucoup, j'étais un peu le petit rat de bibliothèque jusqu'à 15 ans, je dirais.
Et petit, tu savais déjà ce que tu voulais faire?
Alors, quand j'étais plus jeune, plus petite, vers 10-12 ans, je voulais être députée. Donc, ça n'avait vraiment rien à voir.
Ah oui, c'est précis.
Oui, c'était ça. Je me disais, je veux être une femme de pouvoir, de politique. Alors que bon, maintenant, je dois dire que ça m'intéresse plus vraiment. Mais c'était vraiment, je me disais, être avoir un impact sur la société.
Ok. Et est-ce que, comment dire, tu avais des passions aussi?
Petite, c'était moins, ça s'est plus développé plus tard, mais j'ai toujours bien aimé un peu le côté papier, dessin, un peu, ça ressemblait à ce que, à du graphisme un peu à l'époque, mais ça c'était toujours quelque chose qui m'attirait, la mise en scène dans les, voilà, sur le papier, parce que c'était ça, et j'ai. Et un peu en grandissant, un peu de DIY, de bricolage, j'aimais bien faire des bracelets, upcycler des vêtements, ce genre de choses.
Plutôt une fibre créative.
Créative, ça, clairement.
Ok. Et qui t'a donné le goût de la cuisine? Est-ce que c'est né dans ton enfance?
Alors, dans mon enfance, j'ai surtout beaucoup observé. Alors, j'avais mes 2 grands-mères qui cuisinaient beaucoup, chacune à sa façon. Il y en avait une qui était vraiment elle cuisinait vraiment très bien, et l'autre qui cuisinait bien aussi, mais qui était plus dans la food doudou, quoi. Elle nous faisait des beignets, des gâteaux, c'est encore mes madeleines de Proust, voilà. Et puis dans la famille, c'était plus mon père qui cuisinait.
D'accord. Voilà. Cool. Il y avait un plat en particulier dont tu te souviens?
Je parlais de ma grand-mère, donc je les ai encore fait la semaine dernière, ces beignets de carnaval. Donc c'était un peu comme des oreillettes, et ça, quand on la voyait, on la voyait pas très très souvent, mais si on n'avait pas de beignets, c'était vraiment tristesse. Et vraiment, c'est un goût particulier que je ne retrouve que quand je l'ai fait moi-même. Enfin.
Ok. Et ça, quoi?
C'est craquant, ça. Goût très 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 léger de rhum, mais ça, enfin, C'est vraiment, je sais pas comment le décrire, mais c'est les beignets de Mickey, voilà.
Ok, trop bien. Est-ce que tu avais un modèle quand tu étais petite, justement quelqu'un à qui tu aurais aimé ressembler? Une femme ou un homme hein, qui t'aurait un petit peu inspiré?
J'avais pas de modèle très très précis, mais il y avait des traits de femmes autour de moi qui m'inspiraient. Alors déjà ma mère sur le plan professionnel, elle travaillait, elle a une belle carrière en RH à une époque où ça n'existait pas encore les RH. Enfin, c'était vraiment les prémices. Et c'était, je voyais autour de ses copines, elle n'était pas, enfin, tout le monde ne travaillait pas. Et vraiment, j'admirais le fait que, bah voilà, elle soit une femme d'action et de, voilà, qu'elle s'accomplisse par le travail. Je pense à une de ses amies qui est la marraine de mon frère et qui est désormais à la tête de Carrel.
Wow.
Et qui à l'époque était quand j'étais plus jeune était chez L'Oréal et pour moi c'était vraiment la femme créative, je lui parlais de ses parfums, donc c'est Frédéric Picard, on peut le dire, parce que voilà. Et ça, c'est typiquement, je l'ai trouvée hyper dynamique, hyper grande, belle, sportive. Voilà, ça fait partie des modèles comme ça qui m'ont un peu façonnée. Et du coup, voilà, j'ai fait un premier stage chez elle quand elle travaillait chez Annie Goutal. C'était, voilà, ça fait partie des femmes qui ont marqué. Je sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais c'est vrai que c'est intéressant.
Bah, génial.
On fait une petite thérapie au PSF.
Des femmes proches de toi qui finalement avaient des responsabilités. Et...
Voilà, j'ai été très inspirée par beaucoup de femmes qui travaillaient.
Femmes pures.
Ouais, puissantes. Ouais.
Est-ce que petite, tu dirais qu'on t'a encouragée à prendre des risques?
Plus tard, oui. Petite, j'ai pas vraiment de souvenirs. En revanche, mon père est architecte. Lui, donc le créatif, c'était très important et l'entrepreneuriat aussi. Donc, il nous a toujours poussé en disant si vous avez des idées, essayez, on se lance, on voit. Donc, oui, si quand même. Mais je pourrais pas dire dans l'enfance, mais un peu plus tard, fallait essayer quoi.
Ok. Donc, tu avais quand même aussi un modèle d'entrepreneuriat.
Oui, mais c'est marrant parce que je m'en rends compte seulement maintenant que je suis entrepreneuse. Mais au terme d'études, par contre, j'avais deux choses. J'avais ma mère qui, elle, voulait vraiment qu'on fasse un parcours classique, école de commerce, quelque chose de solide. Et mon père qui, lui, voulait qu'on fasse des trucs très créatifs, qu'on sorte des sentiers battus. C'est, il y avait un moment où j'avais voulu faire un CAP de cuisine, bon finalement ça s'est pas fait, mais il m'avait vraiment encouragée là-dessus. Enfin, c'était, j'avais vraiment les deux trucs qui étaient un petit peu opposés, je dois dire. Et c'est amusant de voir que maintenant, bah j'ai réuni les deux finalement.
Trop bien. Bah tu vas nous dire tout ça. Et dernière question avant qu'on reparle de ton parcours. Est-ce que tu dirais que tes parents ont contribué à développer ta confiance en toi?
Oui, je pense. Franchement, j'ai été toujours choyée, encouragée. Clairement, c'est des piliers dans ma confiance en moi. Ça, y a pas de doute. Après, comme je pense beaucoup de femmes de ma génération. Parfois, ça suffit. Enfin, l'amour des parents ne suffit pas, et l'éducation a fait aussi que. Enfin, j'étais très bien éduquée, je remets rien en cause, mais il y a peut-être des choses qu'on fait différemment avec nos enfants maintenant pour développer la confiance en soi.
Comme quoi, par exemple.
Peut-être des façons de dire les choses ou de présenter les encouragements, de pas mettre de barrières. On essaye de pas dire « mais ». C'est bien « mais tu pourrais améliorer ci ou ça ». Maintenant, c'est vrai qu'on essaye d'être un peu plus inconditionnel et de dire « ah, c'est formidable comment la façon dont tu l'as fait ». Enfin,
okay.
ça a beaucoup changé et je pense et j'espère que ça va impacter la confiance en soi de la nouvelle génération. Ouais.
Non, mais c'est super important et c'est vrai que c'est une réflexion que j'ai aussi moi beaucoup. C'est que je trouve qu'effectivement, on va dire des choses de manière un peu inconsciente à nos enfants et en fait, ça peut avoir un impact énorme. Donc, super important de déconstruire ça. Et
voilà, il faut déconstruire, mais en même temps, pas non plus se mettre trop de pression en tant que parent parce qu'on n'est pas non plus responsable de tout. Donc non. Voilà, on fait un peu du mieux qu'on peut, mais aussi avec les clés qu'on connaît maintenant sur l'éducation okay. À apporter aux enfants, ouais.
Bon, je reviendrai sur le sujet un petit peu après. Mais donc aujourd'hui, on l'a évoqué, tu as un parcours extrêmement riche. Donc tu as remporté effectivement, comme je disais, le concours du meilleur pâtissier. Tu es créatrice de contenu, tu es styliste et autrice également, on l'a pas mentionné, et entrepreneur. Donc j'ai lu que tu n'avais pas fait d'études de cuisine, du coup. Qu'est-ce que tu as fait comme parcours ?
J'ai fait une année de prépa école de commerce que j'ai arrêté. Ensuite, j'ai fait 3 ans de droit, une bilicence droit et anglais. J'ai fait l'EM Lyon, qui est une école de commerce.
Ok, en concours à admission.
Ah, admission parallèle, ouais. Ouais.
Ok, donc j'imagine pour faire un peu plaisir à maman.
Oui, voilà. Je me suis beaucoup cherchée. La prépa, ça me convenait pas. Le cadre était trop rigide. J'ai vraiment pas aimé. J'ai adoré le droit en termes intellectuels et d'études, mais je sentais clairement que ça allait bloquer en termes de créativité. Quoi. Je me voyais pas du tout être avocate ou juriste toute ma vie. C'était pas du tout. Voilà, mais c'est très dur à cet âge-là, je trouve, de décider ce qu'on veut faire, mais le message c'est que on peut faire tout ce qu'on veut après. Donc voilà, ouais. Mais c'est vrai que j'enviais vachement le modèle à l'américaine où on disait les 3 premières années d'études, peu importe ce que tu fais, après tu te spécialiseras plus tard. Finalement, c'est un peu ce que j'ai fait, mais c'est vrai que j'aurais jamais cru que le droit allait m'amener à l'entrepreneuriat et à la cuisine, quoi.
Et du coup, comment la cuisine est rentrée progressivement, enfin, a pris plus d'ampleur?
Alors, c'était quand j'ai commencé mon école de commerce, c'était dans une coloc, on était 5, une grande coloc, dans un appart, on était 5, très, très bel appart, très, très grand, et c'était le début des blogs, donc quand je m'ennuyais en cours, je préparais mes recettes pour les dîners que j'organisais le soir.
Ah oui, du coup, tu organisais des dîners.
J'organisais des dîners, on était 18 à table, une à deux fois par semaine, et la règle, c'était, tu apportes ta chaise. Parce que peux préparer le dîner, mais j'ai pas assez de chaise, tu vois.
Ah, j'adore.
Et donc voilà, c'était le début des blogs de cuisine, donc j'en suivais beaucoup, je me suis dit, je vais en lancer un, au départ, c'était vraiment pour garder mes recettes, un peu un carnet de recettes. Et puis, quand mes copines qui venaient au dîner me disaient « Ah, j'adore cette recette, viens, tu peux me la donner ?» Bah voilà, je me disais, l'idée, c'était qu'elle puisse aller sur le blog. Mais c'était ça au départ. Quand j'ai cherché le nom de mon blog, mon Fashion Cooking, il est un peu daté, mais à l'époque, quand je cherchais le nom, j'avais l'impression que le secteur était bouché. Je me disais, il y en a tellement qui existent. Je te parle pas maintenant, hein. Donc enfin, je sais pas si j'aurais eu le courage de me lancer maintenant, mais je me disais, mais comment je vais trouver ma place et tout. Et puis finalement, moi, je l'ai trouvé.
Ouais, c'est vraiment quelque chose. Enfin, à la base, c'est parti d'un, comme tu disais, juste d'un carnet de recettes finalement pour des amis qui te demandaient. Et progressivement, tu t'es dit, est-ce que à un moment tu t'es dit, je vais en faire un peu mon métier.
C'était vraiment pas clair au départ. C'était pas l'idée, mais le blog a eu à pas mal de succès assez rapidement, mais il n'y avait pas vraiment de business model de comment on allait vivre. En gros, à l'époque, tu avais un blog et les quelques blogueurs qui en vivaient, ils organisaient des événements sponsorisés par les marques pour d'autres blogueurs. C'était vraiment pas très clair. Ensuite, sont apparus les premiers articles sponsorisés où les marques payaient pour avoir la création de recettes sur le blog. Mais là encore, c'était vraiment... En cuisine, c'est arrivé vraiment beaucoup plus tard que en mode ou en beauté, qui était plus avancé sur le digital finalement. Mais bon, petit à petit, voilà, c'est arrivé. Mais plus c'est Instagram qui a permis, en tout cas, que je vive de la création de contenu.
Ok. Tu disais que ton blog a pris de l'ampleur. Comment est-ce que tu expliques que finalement t'es gagné en visibilité?
C'était un peu dur à l'époque. J'étais assez Je travaillais beaucoup le SEO à l'époque déjà.
Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme.
Oui, c'est du référencement en fait à mon échelle, hein, mais franchement, j'ai beaucoup travaillé sur mon blog. Je passais des heures à chercher des bouts de code. Je me mettais un peu à coder moi-même, un peu en mode bricolage, mais pour qu'il ressemble exactement à ce que je voulais, au cadre près, à la ligne, la couleur, le truc, et aussi donc le référencement. Mais ça prenait énormément de temps parce qu'il fallait écrire les mots clés, les trucs.
Ouais.
Et il y avait aussi que il y avait beaucoup de blogs qui étaient très artisanaux. Et le mien, je travaillais pas mal dessus en termes de design, de choses. Et puis, dans le milieu parisien, il y avait pas tant de blogueurs que ça à l'époque. Et donc, j'ai commencé à avoir quelques articles de presse dans Femme Actuelle, dans Madame Figaro, à les blogueuses à suivre, des trucs comme ça. Ça m'a aidé aussi. Et puis voilà, après, c'était vraiment l'univers des blogs où t'allais commenter sur les autres blogs et tout, mais c'était
ok.
C'est très vieux quand même.
Et du coup, j'imagine que aussi c'est ce que tu proposais comme contenu et comme recette, c'était intéressant.
Absolument.
Et c'était quoi ton style de cuisine?
Alors j'ai toujours cherché à avoir des recettes simples, accessibles vraiment, mais avec toujours la petite touche waouh. C'était je voulais que ça sorte de la recette classique, mais il fallait pas grand chose, mais c'était soit la présentation, soit un ingrédient. Et c'est pour ça que c'est vrai que la pâtisserie était encore plus sympa parce que en termes visuels, c'est encore plus facile. C'est plus sympa c'est encore plus facile d'ajouter une touche de présentation chouette qu'un plat de pâtes toujours plus dur à. Après, il y avait aussi en parallèle l'essor de la photo culinaire. Au départ, les blogs, c'était vraiment les gens prenaient une photo. Moi, je prenais une photo. Tout le monde attendait que je commence le dîner. Je prenais ma photo dans une lumière blafarde et il fallait juste qu'on comprenne ce que c'était. Et après, je me suis un peu améliorée en photo et ça a aussi aidé à l'essor du blog et plus d'Instagram aussi.
Ok, très clair. Progressivement, donc j'imagine que tu finis tes études.
Voilà, je finis mes études, je fais des stages, c'est là que je lance mon blog. Je l'ai lancé juste à la fin de mon stage. J'étais en stage au marketing chez Chanel. À mon pot de départ, pendant le stage, j'avais pas mal cuisiné, apporté des macarons, des trucs comme ça. Et à mon pot de départ, j'ai présenté mon blog à l'équipe. C'était mon...
Wow.
Voilà. C'était le moment où j'ai dit ça y est, mon blog est sorti, vous pouvez aller regarder. Ça a été mes premiers visiteurs.
Ah, génial, super. T'as dû avoir une super éval de fin de stage.
Écoute, oui, après c'est vrai que j'ai pas continué dans le secteur. Après, du coup, j'étais acheteuse chez Sarenza pendant un an et demi, deux ans. Et ça, c'est une expérience qui m'a bien servi, qui me sert bien maintenant, les achats. J'aimais vraiment bien, j'ai longtemps hésité entre la cuisine et la mode. D'ailleurs, le blog s'appelait Fashion Cooking. Il y avait peut-être à un moment le projet de se dire que je faisais moitié mode, moitié cuisine. J'ai pas réussi à allier les deux, mais c'était un peu l'idée quand même.
Du coup, en quoi cette expérience d'acheteuse chez Sarenza a pu t'aider?
Maintenant, c'est vraiment en termes de développement produit et de sourcing que j'ai un peu les réflexes, calcul des marges, ce genre de choses qui me sert beaucoup dans mon expérience d'entrepreneuse.
Ok. Et progressivement, tu dirais que tu t'es plus concentrée sur la pâtisserie?
Alors ça correspond vraiment au moment où j'ai participé au meilleur pâtissier. Je faisais aussi bien du salé que du sucré. Et quand j'ai fait le meilleur pâtissier, c'est vrai qu'après, les gens me suivaient aussi principalement pour la pâtisserie. Et donc, j'ai un petit peu délaissé le salé. J'y reviens maintenant, justement, avec mes ustensiles de cuisine. Et j'en suis très contente parce que ça me manquait. Enfin, je cuisinais toujours, mais c'est vrai qu'il y avait moins d'engouement parce que les gens, c'est un peu une histoire de niche, en fait. Les gens me suivaient pour le sucré, ils voulaient du sucré. Donc, voilà, c'était...
Oui, il faut leur donner ce qui les intéresse. Et donc, parfaite transition. J'allais te demander, en fait, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à ce concours de meilleur pâtissier?
Alors, le meilleur pâtissier, ça, c'est vraiment intéressant. J'étais, donc, je venais de rejoindre Antoine, comme vous avez entendu tout à l'heure, à Londres. Et donc, je cherchais du travail à Londres. Donc, je cherchais en achat, en marketing, voilà, un peu tout ça. Et j'avais un peu de mal parce que le marché du travail anglais, c'est un peu différent. Enfin, les Anglaises, elles commencent à travailler beaucoup plus tôt. Donc,
oui, ils finissent plus tôt aussi.
Ils finissent leurs études. Oui, bah, leurs études plus tôt, mais ils commencent à travailler plus tôt en âge, je veux dire.
Ah oui.
Et du coup, j'avais les filles de mon âge avaient un niveau bien plus avancé, donc j'avais pas envie de recommencer de zéro. Enfin bon, bref. Mais je cherchais, et je trouve un CDI en marketing, et je m'aperçois, enfin vraiment concomitamment, je tombe enceinte.
Okay.
C'était voulu, j'en étais ravie et tout, mais c'est vrai que voilà. Et naïvement, on me propose le CDI, quand est-ce que tu commences et tout. Enfin, on en était vraiment là. Je dis que je suis enceinte. Et parce que je naïvement, hein, mais je dis, et j'allais accoucher 3 mois après la fin du CDI. Donc, il y avait vraiment pas de problème. Et moi, je me disais, je peux pas commencer un boulot sans dire que je suis enceinte, quoi. Et ça,
évidemment, c'est retourné contre toi.
Totalement. Ils m'ont ghosté, tout simplement. On était une nouvelle. Bref, et j'appelle, et après ils me disent, ah ben non, t'avais mal compris. On se fixait la date de signature. Bref, ça m'a un peu refroidi. Et en parallèle, j'avais, comme ne sachant pas pour les boulots ce qui se passait, j'avais quand même postulé au meilleur pâtissier en me disant, bon, ça peut toujours me faire de la visibilité si je trouve pas de boulot. Au moins, ça m'occupera 6 mois.
Et c'est génial, parce qu'en fait, à l'époque, c'était l'émission, elle existait depuis longtemps.
Elle existait depuis, il y avait déjà eu 2 saisons.
Ah oui, okay.
Voilà.
Et le profil des personnes, c'était des pros ou c'était
que des amateurs? Que des sur amateurs. Meilleur pâtissier, c'est vraiment amateur, et il faut, enfin, tu peux pas participer si t'as un CAP ou ce genre de choses.
Ah oui,
ouais.
Ah oui, donc
que amateur.
J'allais poser la question du syndrome de l'imposteur, mais en fait, si tout le monde est amateur, finalement, tout le monde a ses chances. Enfin, est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es dit, j'ai pas ma place?
Oui, bah bien sûr. Honnêtement, en pâtisserie, j'étais ok, mais pas non plus. Pas non plus pro, enfin, franchement, je débutais un peu en pâtisserie, hein. C'était, et d'ailleurs, quand je suis arrivée au concours, j'en voyais qu'il y avait des niveaux de dingue, et je me disais, est-ce que je vais être à la hauteur? Mais du coup, je pense que ça m'a servi parce que je suis arrivée hyper humble en disant, moi, je ne sais pas grand chose. Et du coup, à chaque fin d'émission, on avait une masterclass avec le chef invité de la semaine. Donc, Hermé, François Perret, Philippe Conchicini, enfin, voilà. Et donc, moi, j'écoutais tout. Je prenais tous les conseils, alors qu'il pouvait y avoir d'autres candidats qui étaient un peu dans le, ils ont pas compris, je réussis tout, et moi je me disais, mais moi je ne sais rien, donc voilà, je vais prendre tous les conseils et faire au fur et à mesure. Par contre, j'avais quelque chose que peut-être d'autres n'avaient pas, c'est que j'étais méga créative, et donc en termes de visuel, les idées me venaient comme ça, encore plus parce que j'avais des contraintes. Quand on me donnait un sujet, c'était la partie préférée de me dire qu'est-ce que je vais faire pour que le gâteau soit différent des autres, alors que bon, il y avait beaucoup qui suivaient vraiment des recettes de chefs en se disant les saveurs vont être parfaites et tout.
Bon élève. Alors que toi, finalement, voilà. Tu sortais du cadre.
Je sortais du cadre totalement, ouais.
Ok, top. Et donc, t'envoies ta candidature, ça consistait en quoi à l'époque?
Je crois que on avait eu un Skype où on montrait un gâteau. Après, faut savoir que le meilleur pâtissier, bon, on va pas se leurrer, il cherche des personnages. Donc, voilà, il faut le belge, la tatouée, le petit génie, enfin voilà. Donc, bon, voilà, moi, je me suis dit, je vais aller à fond dans mon personnage. Et donc, ensuite, après le Skype, on avait des sélections où on allait tester une recette dans une école de cuisine. Et donc là, je suis arrivée avec, c'était l'époque de Desperate Housewife, et tout le monde me comparait à Brie Vanderkamp parce que je suis rousse et que je faisais des cupcakes. Et je me suis dit, bah vas-y, on y va. Et du coup, je suis arrivée au casting avec un tablier à froufrou et un gâteau rose, quoi. Tu vois, c'était vraiment, je me suis dit, voilà.
Ok. Non, mais tu avais cette finesse aussi de comprendre un petit peu ce que les gens attendaient. Oui, finalement, elle a endossé un rôle justement pour... Enfin, je trouve ça brillant, quoi.
Franchement, c'était, j'avais compris que c'était ça qu'on attendait de moi et, enfin, pas qu'on attendait de moi, mais ce qui allait me démarquer, en fait, et que, bah voilà, c'est la télé, quoi.
Mais oui, non, mais c'est clair. Enfin, tout est un petit peu, de toute manière, amplifié.
Mais c'est aussi scénarisé. C'est ça qui fait qu'on a plaisir à regarder parce que, honnêtement, voir des gens rater des gâteaux, si c'est pas scénarisé, s'il n'y a pas un peu de storytelling derrière, c'est vrai qu'on s'ennuierait. Donc, je me suis dit, allons-y à fond, quoi.
Et tu dirais, est-ce qu'il y a une épreuve qui était particulièrement stressante ou vraiment tu t'es dit, je vais pas y arriver?
Honnêtement, toutes les épreuves étaient stressantes, quoi. C'est-à-dire, il y avait vraiment ce truc de, est-ce que je vais terminer? Est-ce que ça va ressembler à ce que j'avais en tête?
Est-ce que tu peux peut-être nous réexpliquer un peu les contraintes d'une épreuve?
Il y a trois types d'épreuves. Il y a une épreuve qui est la... On donne un gâteau signature qui existe déjà et on doit revisiter un peu la forêt noire, je sais pas, un saut honoré, voilà, des trucs très classiques. Ensuite, on a l'épreuve que vous dites épreuve de Mercotte, qui est où on découvre la recette devant nous et on doit la reproduire. Et souvent, il y a des pièges pour qu'on... Voilà, mais du coup, tout le monde fait la même recette. Et la troisième épreuve, c'est l'épreuve créative, qui est plus longue, qui dure 3 heures, et généralement on fait des genres de masterpieces sur un thème. Et là, c'est plus un thème. Et moi, alors évidemment, l'épreuve créative, c'était ma passion. Enfin, j'adorais justement trouver la bonne idée, le truc, le visuel, les saveurs sympas, voilà. Mais c'est vrai que le visuel, c'était très très important pour moi. Plus que pour d'autres, et parfois au dépens des saveurs, parce que voilà, je ne voulais pas trop prendre de risques de ce côté-là.
Ok. Et donc, est-ce qu'il y a une de tes créations pendant l'émission dont tu es la plus fière?
Il y en a eu pas mal, mais justement, c'est une épreuve où c'était vraiment le visuel à fond. Donc, j'habitais à Londres à l'époque et on devait faire c'était de faire une œuvre en biscuits. Avec, il y avait un nombre de biscuits, je crois, une soixantaine ou un truc comme ça. Donc c'était et une contrainte de hauteur. Il fallait que le truc fasse au moins, je sais pas, 50 centimètres de haut, un truc comme ça. C'était assez haut, quoi. Et peut-être pas 50, mais bon, quand même beaucoup, quoi, vraiment. Et du coup, tout le monde était parti sur l'idée qu'il fallait faire des petits gâteaux. Je sais pas pourquoi, enfin que du coup pour en faire 50, il fallait en faire plein de petits, quoi. Et du coup moi je m'étais dit non, j'ai fait un Big Ben en pain d'épices. Et donc pour le faire monter haut, c'était quand même dur, hein, il fallait que ça tienne. Du coup j'avais fait des grandes pièces de biscuits sur lesquelles j'ai été collée plein de petites pour faire un peu les petits blocs qui représentaient Big Ben. Et ça typiquement c'était vraiment un des mes chefs-d'œuvre. J'étais pas contente de moi du tout à la fin de l'épreuve parce que je trouvais que ça ressemblait pas du tout à ce que j'avais en tête. Mais en réalité, quand on le voyait de loin, enfin, franchement, oui, il était dingue. Et puis par rapport à peut-être aux autres aussi, c'est un peu ça aussi l'émission. C'est-à-dire que les fois où je me suis un peu ratée, heureusement, il y en avait d'autres qui avaient plus raté que moi à ce moment-là, quoi. Oui. C'était un peu le truc, quoi.
Ok. Et comment toi, t'as géré la pression, la compétition?
C'était dur, honnêtement, surtout le rythme était très très intense et comme je disais, j'étais enceinte.
Oui, en plus.
Alors, à la fois, c'était dur parce que physiquement, c'était très dur quand on était en plein tournage, que je devais aller faire pipi, traverser toute la prairie pour aller en courant, en tenant mon ventre pour pas perdre de temps dans l'épreuve. Wow. C'était chaud, quoi, franchement. On se couchait à 2h du matin pour faire les interviews en fin de journée. Enfin, c'était très très intense. Mais... en même temps, j'avais, je crois, ce recul de me dire, si je rate un gâteau, je suis en train de créer la vie, je vais avoir un bébé. C'était mon premier. Et donc, je crois que ça m'a vraiment aidé à relativiser. J'étais hyper stressée, hein, y a pas de truc, mais à chaque épreuve, pour finir le truc. Mais sur le global, je me disais, c'est pas grave. Enfin, je joue pas ma vie. Ma vie, c'est d'avoir cet enfant, quoi. Mais... rétrospectivement, après, quand j'ai eu j'ai deux autres enfants, pendant mes autres grossesses, je me dis,
Je ne sais pas comment j'ai fait. Honnêtement, je ne sais pas.
Bon, après, c'était une opportunité, comme tu dis.
Exactement. Voilà, c'était le contexte. C'était mon premier enfant. Mais du coup, la grossesse est passée vite, au moins. C'était cool.
Parce que du coup, la fin de l'émission, t'étais à combien de mois de grossesse?
J'ai terminé à 7 mois de grossesse. Sauf que ce qui était génial, c'était que j'ai gagné. Mais que du coup, il fallait écrire un livre. C'était ce qu'on gagnait. Enfin, c'était le gain. C'était d'écrire un livre de pâtisserie. Mon avantage, c'est que j'avais déjà pas mal de recettes grâce à mon blog, mais le désavantage, c'était que j'accouchais 2 mois plus tard et qu'il fallait écrire le livre avant la sortie de l'émission, l'écrire et le shooter. Et là, c'est là que ça a été, je crois que c'était le pire truc. J'ai refait une semaine d'épreuve du meilleur pâtissier où il fallait en fait sortir tous les gâteaux qui allaient être shootés. Il faisait 40 degrés, il y avait une canicule de malade, mais mes jambes avaient triplé de volume et il fallait que tous les jours on fasse tous les gâteaux pour la photographe, pour l'écriture du livre. Et ça, je crois que ça a été l'épreuve ultime.
Parce que là, en fait, une fois que tu as remporté l'émission, la sortie c'était prévu.
En gros, j'ai terminé l'émission, je pense début juillet. J'accouchais mi-septembre et normalement quand t'écrivais le livre t'avais un peu on te laissait un mois pour écrire les recettes mais moi le problème c'est que j'allais être trop grosse quoi, enfin ça n'allait plus marcher, donc il a fallu le faire tout de suite, donc j'ai bossé comme une malade pour faire toutes les recettes, tout le shooting et ensuite tout le travail d'édition a été fait Ensuite, l'émission a été diffusée en octobre. Donc, j'avais accouché depuis 3 semaines. Et ça, c'était dur. Franchement, c'était dur. Parce que j'avais l'impression de pas bien m'occuper de mon bébé et de pas non plus capitaliser sur la victoire en me disant c'est maintenant. Si je fais pas des articles sur Facebook, si je capitalise pas là-dessus, j'en profite pas, je vais passer à côté de cette opportunité. C'était très très dur.
Il y avait de la promo à faire ou pas du tout?
Oui et non, en fait, c'était toi ce que t'en fais. En fait, t'es pas du tout accompagné par la chaîne, donc c'est débrouille-toi. Et si t'en fais rien, il se passe rien, en fait. Enfin.
Ok. Et du coup, comment toi tu t'es dit comment je vais capitaliser sur cette victoire?
Moi, j'ai fait ce que je pouvais, honnêtement. J'ai écrit des articles de blog. Je postais toutes les 3 recettes de l'émission. Ensuite, il y a eu le livre. Enfin, bon, après, il y a quand même le truc que tu passes à la télé toutes les semaines et tout. Enfin, c'était une super visibilité. Mais par exemple, mon blog, il l'avait montré le premier épisode dans les portraits et puis après, ils l'ont plus jamais montré. Tu vois, ça, c'est des trucs, c'était vraiment très énervant.
Après, j'imagine si on tapait ton nom sur Google, on pouvait...
Oui, mais en fait, il n'y avait pas encore Instagram, vraiment. Enfin, il y avait un petit peu, mais tu n'avais pas du tout ce réflexe. Maintenant, tu vois le nom des gens, tu vas tout de suite avoir le réflexe d'aller chercher leur compte sur Instagram. Moi, ce n'était pas le cas. Et les saisons d'après, ça a été le cas, tu vois. Donc, c'était un peu... voilà. Et moi, j'ai reconstruit ma communauté toute seule, plus au moment du Covid.
Ah oui.
Ouais, sur Instagram, ouais. Mais par contre, c'était sur Facebook, donc j'avais plein de followers sur Facebook, mais ensuite ça servait plus à rien d'avoir des followers sur Facebook. Donc voilà, on se réinvente tout le temps, hein.
Ok, oui, c'est vrai que tu le mentionnais dans l'introduction, d'avoir dû être assez agile pour finalement te réinventer.
Tout le temps. C'est-à-dire au début j'ai fait le blog, après j'ai fait les pages Facebook, on m'a dit non, les pages Facebook ça sert plus à rien. Après on fait les groupes Facebook, donc à chaque fois tu recommences de zéro. Après on te dit Instagram, après on te dit Snapchat, après on te dit les stories, ensuite machin. Et là on m'a dit TikTok. Et là j'ai dit bon, je vais faire autre chose.
Ok. Et quel souvenir tu dirais que tu gardes de cette expérience, de ce concours?
Franchement, c'était génial. C'était une super opportunité. En plus, c'était quand même des très bons moments. L'ambiance était très sympa entre les candidats, où il y avait quelques petits clashs avec certains. Mais honnêtement, c'était vraiment ambiance colonie de vacances. Et puis, bon, voilà, le meilleur pâtissier, tout est rose. C'est un peu bisounours. Ça n'empêche pas que quand tu rates quelque chose, c'est dur, hein, franchement. C'était vraiment très très sympa. On était dans notre bulle pendant 2 mois. C'était chouette.
Et aujourd'hui, donc comme tu le disais, t'as écrit un deuxième livre. Là, tu as lancé ta marque d'accessoires.
Ouais.
Et aussi, tu es maman. Et je voudrais te demander comment tu arrives à jongler entre toutes ces casquettes.
C'est pas simple. C'est pas simple. C'est assez intense. Mais j'apprends de plus en plus à prioriser et voilà, j'ai déjà Antoine m'aide énormément. Franchement, j'ai un soutien dingue en termes de.
Enfin, il m'aide. Il partage les tâches.
Absolument, 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 parce qu'en plus c'est vraiment ça. Enfin, c'est non seulement il me soutient dans mon entreprise, enfin dans mon aventure entrepreneuriale, et en plus. Clairement, je pense qu'on est arrivé à un stade où on a une charge mentale égale. Parfois même, c'est lui qui en récupère plus. Et ça, c'est un travail qu'on a fait au sein de notre couple. Aussi, moi, accepter de déléguer, de parce que c'est aussi ça. Hein. Il a toujours été demandeur et il a toujours fait spontanément énormément de choses. Mais il y a aussi moi des trucs où je j'étais pas derrière son épaule à checker tout ce qu'il faisait, à accepter que ce soit pas fait comme tu veux. Et puis aussi de lâcher prise sur des trucs où tu ne sais pas. Il fait tout ophtalmo, dentiste. Je n'ai aucun suivi de ce qu'il fait avec les enfants. Et c'est pas, c'est comme, c'est très bien comme ça. Voilà.
Génial.
Donc ça, et puis voilà, et puis après, bah, je travaille beaucoup, quoi.
Mmh.
Toujours, ça fait partie des choses que je voudrais faire, essayer de moins ramener le travail dans la vie perso, mais c'est un peu impossible, c'est très poreux, les deux univers. Et c'est vrai que ça, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est que, bah, il faut toujours travailler, même le week-end. Sinon, tu rates les messages, tu peux pas reposter les stories. Et puis bon, on te suit aussi sur les recettes que tu fais le week-end. Enfin, donc ça s'arrête jamais vraiment. Et ça, c'est le seul truc, c'est que j'ai l'impression de jamais avoir eu de vacances depuis que je me suis lancée sur mon blog il y a 14 ans, quoi.
Wow. Est-ce que tu penses que pour ça, il faudrait éventuellement, je sais pas, que tu aies quelqu'un qui t'aide sur la création de contenu?
Oui, exactement.
Pour,
ça va être
anticipé, planifié. Et là, j'étais ces moments de coupure.
C'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille justement avec Casavida. Maintenant que j'ai mon entreprise, justement, à pouvoir déléguer. Léa qui travaille avec moi déjà depuis un an et demi qui m'aide beaucoup là-dessus, mais on fait tout toutes les deux, donc
okay.
J'en suis pas encore au stade où je peux complètement déléguer la création de contenu, mais c'est un objectif clairement.
Okay.
Pour être là, pour la piloter, mais c'est vrai que là, ce qui est dur, je trouve, c'est que dans une journée, je passe de je viens de faire une recette, je suis limite en train de faire la vaisselle. Ensuite, je dois prendre deux décisions hyper stratégiques en termes de création de produits ou de développement de stock. La minute d'après, j'ai mes enfants qui me demandent un truc pour faire les devoirs et tout ça. Dans un joyeux bordel, un peu assez organisé, mais voilà, il faut changer de casquette en permanence, et ça fait partie des choses sur lesquelles je travaille. Et en 2024, ça, il y a beaucoup de pistes d'amélioration, mais je vais y arriver.
Après, c'est bien parce que tu es consciente effectivement de ce qu'il faudrait faire pour que ça soit plus simple pour toi aussi de pouvoir souffler.
Oui, voilà. Mais après, bon, bah, c'est aussi le propre de l'entrepreneuriat. Quand tu te lances, c'est évident que tu fais tout le temps. Donc, voilà. Faut accepter de passer par cette phase. Et c'est aussi, j'aurais pu me, typiquement, j'avais beaucoup cherché à me lancer des entreprises plus jeunes, avant d'avoir des enfants. Mais en fait, je crois que je suis beaucoup plus sereine de monter cette entreprise maintenant que j'ai mon mari, trois enfants. J'espère que je mets pas trop en danger la sécurité de la famille non plus, parce que bon, en termes financiers, c'est vrai que c'est un challenge. Mais je suis beaucoup plus apaisée parce que voilà, j'ai ma vie de famille, et je me dis, si jamais ça marche pas, bah j'ai ça en fait. Enfin. Et alors que à 25 ans, je me voyais pas, j'avais besoin d'être indépendante, je me voyais pas vivre chez mes parents pendant des années, le temps que ça marche, sacrifier ma vie de couple à ça, voilà. Et donc, et puis je monter maintenant cette boîte, je le fais avec beaucoup plus de maturité. Je sais beaucoup mieux où je veux aller, ce que je veux faire des produits. J'ai quand même beaucoup plus de compétences. Et donc, je suis vraiment très heureuse de le faire maintenant. Je me sens là où je devrais être.
Bon, t'as déjà fait la conclusion. Non, super. Et tu dirais que tu te sens beaucoup plus mature. Est-ce qu'il y a notamment une grosse erreur que t'as pu faire et que tu ne vas pas refaire? Est-ce que genre t'as eu un gros échec ou un échec, petit ou grand, qui justement t'a appris et te donne cette maturité aujourd'hui?
Alors, c'était très dur, tout le chemin vers vivre de mon contenu a été vraiment assez difficile parce qu'il fallait le business model n'existait pas vraiment encore. J'ai beaucoup été dépendante de mon mari assez longtemps et ça me pesait, je trouvais ça très dur. Il me l'a jamais fait ressentir, mais honnêtement après j'avais cette chance qu'il puisse subvenir entre guillemets à nos besoins. Mais quand j'étais à Londres par exemple, je ne travaillais, tout ce que je gagnais, c'était pour payer la crèche de ma fille. Donc c'était dur. Et puis en plus, bon, Londres c'est une ville très chère, donc mon mari gagnait bien sa vie, mais enfin c'était vraiment dur. Et je voyais surtout mes copines qui commençaient à vraiment bien gagner leur vie, à avoir des postes stables, à évoluer. Et moi je me disais, mais où est-ce que tu vas? J'étais vraiment pas sûre d'avoir choisi la bonne voie. Je me disais, je vais retrouver un boulot, mais ensuite je me voyais pas repartir sur le marché du travail. Je me sentais pas légitime. C'était vraiment des années assez dures. Et ensuite on est rentré à Paris et là j'ai trouvé mon ton aussi, ma niche, mon identité visuelle. Et puis il y a eu Instagram, parce que comme je te disais tout à l'heure, le confinement, j'ai fait 3 lives par semaine avec les enfants de recettes. J'étais la première à proposer des lives de recettes. Le jour où on a dit il y a plus d'école pour les enfants, je me suis dit il faut que je les occupe. Donc là, tu vois, je me suis lancée là-dessus. Un peu au culot en fait, parce que après il y a eu plein de créateurs de contenu qui ont fait des lives, mais honnêtement j'étais la première à avoir dit, je me suis dit je vais proposer les recettes et tous les lundis je donnais les 3 recettes. Je travaillais énormément parce que c'était compliqué, il y avait quand même les enfants à gérer en passage, et là tu vois ça m'a fait gagner justement de l'audience sur Instagram. Mais j'oublie pas les moments où c'était très très dur. Et on peut croire, justement, maintenant, il y a ce mythe de l'influenceuse que tu gagnes des millions en prenant une photo de toi avec un sac. Mais no way, quoi. Enfin, franchement, c'est pas du tout ça. Moi, en tout cas, en cuisine, c'était pas le cas. Et puis, en cuisine, créer une recette, c'est pas tu te prends en photo avec ton sac, quoi. C'est pas du tout ça, quoi. Donc, il faut tester la recette, il faut l'écrire, il faut faire le référencement. Ensuite, maintenant, il faut aussi faire les vidéos, il faut faire le montage, il faut... Je suis perfectionniste, donc ça me demande vraiment beaucoup de temps et je reste très humble sur beaucoup de choses parce que tu peux, ça c'est aussi les réseaux sociaux, c'est à un moment ça peut marcher et puis le lendemain tu es plus remonté par l'algorithme et plus personne ne voit ce que tu fais, enfin c'est dur aussi, enfin honnêtement
on tirait pas forcément de gros échecs mais
plein de petits
d'embûches,
voilà, exactement,
plein d'obstacles que tu as dû relever. Et je pense qu'effectivement et comme disait Antoine, c'est que tu as aussi cette flexibilité aussi pour comprendre un peu ce qui pourrait être utile, enfin tu sais saisir les opportunités.
Voilà, je rebondis par contre tout le temps, enfin c'est-à-dire je me réinvente en permanence. Il y a pas de voilà.
Tu dirais que c'est ton point fort?
C'est mon point fort et aussi la créativité, franchement, avoir que ce soit pour les recettes, il y a eu des moments où j'ai eu un peu des crises de créativité justement pour les recettes où j'avais l'impression d'avoir fait le tour, de faire tout le temps les mêmes recettes, mais maintenant je le mets au service des objets que je développe pour les ustensiles. Quand je dis ustensiles de cuisine, les gens s'imaginent que c'est des trucs très basiques et tout, alors que le moindre ustensile est pensé dans tous ces, enfin, je le pense dans tous ces aspects. Je veux qu'il soit extrêmement beau, extrêmement pratique, que ça aille jusque à la façon dont on va le ranger dans le tiroir. J'ai vraiment beaucoup changé aussi. Je n'ai plus du tout envie d'accumuler des objets et je veux avoir moins d'objets, mais les bons. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de transmettre dans les objets que j'ai créés avec Casa Vida. Mais voilà, je me découvre aussi des qualités tous les jours. Là, je suis venue en développement produit. Franchement, je suis une killeuse. Alors que bon, j'avais assez peu d'expérience finalement. Mais je suis allée sur les salons trouver des fournisseurs. On me disait non, ça va pas être possible. Je faisais développer un proto, le rouleau à pâtisserie. J'ai développé un proto avec un artisan qui m'a fait ce rouleau à pâtisserie. Et du coup, je suis allée voir l'usine de bois. Je lui ai dit, mais il me disait non, ça ne va pas marcher. Je lui ai dit, bah regardez, j'ai un proto. Il m'a fait ah oui, ah ok, bon, on va regarder. Et puis bah voilà, maintenant j'ai sorti mon produit. Enfin, il y a que des trucs comme ça. Personne ne...
Pugnace, du coup.
Voilà, exactement. Enfin, quand je dis. Et puis surtout, c'était là une gamme d'ustensiles de cuisine, ça coûte très cher à développer. Et honnêtement, j'étais capable de le faire et c'est vraiment, vraiment pas rien. Et je suis vraiment hyper, hyper fière d'avoir tenu jusqu'au bout parce que c'était vraiment pas gagné et fallait rêver grand pour que ça arrive. Ouais.
Cool. Alors, j'ai plein de questions. Ok. Alors, effectivement, donc tu me disais, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur la créativité. Tu me disais que, effectivement, finalement, tu t'es mise dans cette niche où on te demandait des pâtisseries, vu que voilà. C'est pour ça que tu étais connue. Ensuite, avec le confinement, j'imagine des recettes un peu plus liées aux enfants, peut-être, pour les occuper, etc. Et effectivement, il y a un moment où tu me dis, je tournais peut-être un petit peu en rond. Enfin, c'est dur de réinventer la roue, surtout quand c'est pas des, j'imagine, des recettes extrêmement sophistiquées pour qu'un enfant puisse le refaire.
En fait, je pense que sur les réseaux sociaux, tout va tellement tellement vite que en réalité, tu pourrais tout le temps poster reposter en permanence les mêmes recettes parce que c'est pas forcément les mêmes gens qui les voient. Mais c'était moi, en fait, j'avais l'impression parce que en fait, une recette, il suffit de pas grand-chose pour que les gens aient l'impression que c'est un nouveau gâteau. Tu prends toujours la même base, tu mets un peu de, je sais pas moi, de pâte de pistache pour que sur un cake vanille, ça devient un cake pistache et tu lui fais un petit glaçage. Il y a possibilité, mais moi j'avais l'impression de tout le temps faire la même chose. Au bout d'un moment, de tourner en rond. Mais voilà, c'était aussi parce que ça faisait très longtemps que je le faisais, quoi, tout simplement.
Okay. Et du coup, le Casa Vida est arrivé à ce moment-là et que tu avais besoin d'exprimer ta créativité autrement. Comment tu expliquerais que c'est
oui. Alors une fin de cycle aussi. J'avais accouché de ma troisième. J'avais l'impression que je pense que j'allais fermer la porte de ma maternité. J'avais besoin d'un autre projet. Moi, je fonctionne. Enfin, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose, un moteur dans la vie. Et puis j'avais vraiment cette envie viscérale de créer mes produits parce que des produits que je ne trouvais pas sur le marché et aussi au bout d'un moment j'en avais assez de recommander des produits à ma communauté qui me demandait je vois que tu utilises ci ça est-ce que tu peux nous recommander et j'avais pas envie de recommander des produits que j'estimais pas parfaits ou qui me gênaient sur certains aspects, qui étaient pas dans des belles matières, qui étaient alors certes très pratiques, mais en plastique, c'est-à-dire que ça n'allait pas durer, ou alors beau, mais pas du tout, tu sais pas comment l'utiliser. En fait, c'est très sympa d'acheter le couteau de Thierry Marx, mais si ensuite, toi, tu sais pas faire une découpe de chef et tu sais pas l'aiguiser, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, je trouvais que c'était soit trop pro et pas adapté à la cuisine ménagère, soit très pratique, mais pas durable. Donc, c'était vraiment très important pour moi d'avoir ces trois aspects, design, utile, durable. Et design, ça, c'était vraiment mon sens esthétique. Je voulais que ce soit beau, parce qu'en fait, j'ai cette idée que si tu as des beaux objets vraiment pratiques à utiliser, ça te facilite la cuisine aussi.
Tu me parles beaucoup du beau. Alors, moi, je ne peux que... comprendre.
Oui, je pense qu'on a quelque chose sur l'ADN du design. Mais d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés.
Oui. D'ailleurs, c'est une amie à toi, donc styliste, qui devait réaliser tes portraits. C'est ça pour ton...
En fait, je faisais une série de portraits pour justement, quand j'ai lancé la marque, et j'ai demandé
à Anne qui est styliste ses conseils et c'est parce que je lui disais bah voilà je voudrais que dans ses portraits je veux pas avoir un rouleau de pâtisserie dans la main, c'était vraiment pas ça, mais je veux que voilà il y ait l'aspect design et épuré qui ressorte et donc c'est à cette occasion là qu'elle m'a parlé de ta marque et qu'elle me l'a recommandé et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et j'ai eu la gentillesse de me prêter des bijoux pour ce shooting et je trouvais qu'en effet ça représentait vraiment bah aussi la nouvelle femme que j'étais, enfin que j'avais, parce que bah voilà j'avais grandi, évolué. C'est pour ça que je trouve que Oaken correspond bien à la nouvelle façon de consommer la mode aussi que j'ai, avoir des pièces fortes, en avoir moins. Mais qui voilà quand j'enfile ma bague de points que mon mari m'a offert après après le shooting, comme je lui avais dit que j'avais adoré, voilà, c'est pour ça que tu t'es en contact avec mon mari, c'est parce qu'il est venu t'acheter une bague.
Ouais, peut-être.
Je crois c'est la façon j'ai envie d'avoir beaucoup, même en mode, moins de vêtements, plus des basiques, qu'on habille d'une pièce forte. Et d'ailleurs à chaque fois que je la mets, tout le monde m'en parle, et voilà, donc je voudrais, et c'est la même chose que je cherche à avoir en cuisine, un très bel objet, t'en as moins, mais quand tu sors ton rouleau à pâtisserie sur ton plan de travail, bah c'est waouh, et t'as plaisir à l'utiliser, comme j'ai plaisir à apporter mes bijoux au Cannes.
Merci.
Voilà, c'était la pub comme ça, spontanée. Et en tout cas, c'est vraiment comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est vraiment... C'est l'ADN de nos deux marques, je crois, le design à tout prix.
Oui, exactement. Bah, c'est aligné exactement sur ses valeurs. Le beau, enfin en tout cas qui, moi pour moi, est source d'harmonie et me fait me sentir bien et aussi bah grâce aux bijoux aussi unique et puissante, on va dire. Et si tu devais par exemple nous parler d'une pièce que tu as designée en particulier pour Casa Vida, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse et comment tu l'as designée? Tu m'as parlé déjà du rouleau à pâtisserie, mais peut-être une autre pièce.
Les règles à pâtisserie, déjà personne ne connaissait, et celles que je trouvais sur le marché, elles étaient toutes petites, pas pratiques à utiliser. Donc j'ai créé le perfecteur de pâte. C'est pas un rouleau, c'est un perfecteur de pâte. J'ai adoré faire le wording de toute ma marque. Donc le perfecteur de pâte, et j'ai voulu aller encore plus loin. Je trouvais que les règles à pâtisserie, moi, je les perdais tout le temps, parce que elles étaient pas rangées dans le bon tiroir, alors qu'il y en a 6, il faut toujours les avoir au même endroit. J'en avais perdu 2 sur le tournage du meilleur pâtissier, ça m'avait trop énervé, parce qu'il avait fallu en plus que j'en rachète un set de, okay. de 6. Bref. Donc, voilà. Donc, j'ai voulu aller encore plus loin et proposer en plus le socle de rangement, du rouleau à pâtisserie et de ses règles, et donc j'ai imaginé ce très bel objet qui aille que tu puisses avoir plaisir à ranger, à utiliser, et qui te donne envie de faire plus de cuisine maison aussi. Donc un simple objet fait que bah en fait comme c'est plus facile de faire ta pâte à tarte par exemple, tu vas avoir plus de plaisir à le faire, déjà parce que tu as le plaisir esthétique d'avoir ce bel objet qui est agréable à utiliser. Donc c'est le cercle vertueux, tu vas avoir plus envie de cuisiner maison, tes pâtes à tarte seront plus réussies, donc tes recettes seront plus belles, donc tu auras encore plus de plaisir à les déguster, et donc il y a vraiment tout cet aspect où l'esthétique autant que l'utilité de l'objet, enfin vraiment il y a ce cercle où tout se nourrit, et donc je pense que les ustensiles Casa Vida, le fait qu'ils soient beaux, c'est pas anecdotique, ça aide à redonner du plaisir en cuisine, et redonner des ailes en cuisine, même quand tu penses que t'es nul. En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, mais je suis nulle en cuisine, c'est pour ça que je fais pas mes trucs maison, ou les gâteaux, je les rate tout le temps. Et moi, j'ai vraiment toujours eu à cœur, quand j'ai écrit des recettes, on me disait souvent, merci, parce que grâce à toi, je ne rate plus mes gâteaux.
Et donc, quand tu as lancé Casa Vida, comment est-ce que tu as financé ton projet? Parce que tu m'as dit qu'effectivement, il y avait des gros minimums de quantité.
Alors, tout est autofinancé jusqu'à présent. Donc,
Mais en fait, disons que là, j'ai pris une voie un petit peu détournée parce qu'en fait, mon idée première, c'était de lancer les ustensiles, les petits ustensiles de cuisine, donc le fouet, la marise, la cuillère en bois, ce genre de choses, qui vont bientôt sortir d'ailleurs. C'était une montagne trop grosse à gravir parce que c'est des produits durs à développer et qui demandent un minimum de quantité très important. Donc, j'ai décidé de lancer d'abord ma gamme de pâtisserie, où notamment il y a le rouleau et il y a deux autres ustensiles de pâtisserie où il y a beaucoup de bois dedans. Et donc, le fait d'utiliser le bois, tu n'as pas besoin d'avoir un moule industriel. C'est ça qui coûte cher, c'est quand tu dois faire des moules industriels où tu dois en faire un par produit. Donc avec le bois, j'avais pas ce problème et j'ai pu faire produire mes ustensiles en France par une usine de bois et j'ai sourcé les petites pièces en métal des autres ustensiles de pâtisserie. Et en parallèle, j'avais mes copines qui me suivent, enfin voilà, mes copines et puis aussi la partie de ma communauté qui me suivait un peu plus pour le lifestyle, pour la vie de famille, mes copines me disaient vraiment bon, ton rouleau à pâtisserie t'es gentil, mais nous on fait pas de pâtisserie, donc ça nous intéresse pas. Et du coup j'ai eu cette idée aussi franchement brillante, parce que c'était pas évident quand on disait des ustensiles de cuisine, mais j'avais aussi très 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 envie de développer un cabas pour aller faire les courses, qui soit vraiment très stylé, parce que je comprenais pas, enfin on accumule un nombre de tote bags et on a jamais le bon sac quand on va faire les courses, c'est pas pratique, il est trop c'est toujours trop petit, on a plus de courses que prévu, les bouteilles tiennent pas, et puis ensuite moi je voyais mon mari devant son tas de cabas qui savait jamais lequel prendre quand il allait faire les courses, enfin voilà. Et donc j'ai développé un magnifique cabas pour aller faire les courses, et du coup c'était du textile, et c'était une façon aussi le textile, c'est quand même beaucoup plus facile à développer. T'as pas besoin de moule industriel, tu fais un patron et puis voilà. C'était pas facile, mais c'était plus simple en tout cas que les ustensiles. Et donc j'ai développé ça en parallèle. Et en fait, et toute une gamme aussi textile d'accessoires zéro déchet qui te permettent d'aller faire tes courses avec style jusqu'au filet à fruits et légumes, à l'étui à baguette, enfin voilà, il y a plein de...
Donc, t'as écouté aussi beaucoup tes clientes, tes futures...
Alors ça, le cabas, c'était moi, mais c'était juste, j'écoutais mes copines qui me disaient le rouleau à pâtisserie, ça va pas nous intéresser dans un premier temps. Donc je savais que ma communauté pâtisserie, elle serait réceptive à la gamme pâtisserie, mais j'ai tout de suite voulu diversifier sur une autre gamme qui s'adresserait à peut-être plus de gens. Donc le cabas qui cartonne et qui est aussi une porte d'entrée sur justement des gens qui me disent bah nous on sait pas très bien cuisiner et tout, et justement en prouvant que bah même au moment où tu fais les courses tout peut être plus pratique, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée et qui m'a permis ces produits qui étaient entre guillemets plus faciles, c'est pas ça a été quand même un beau challenge, j'ai fait de la précommande sur ces deux lignes et ça m'a permis de financer la première, enfin ma première année qui est juste rentable, enfin. Donc, ça, c'est quand même waouh, quoi, franchement. Il faut le souligner. Et qui me permet de pouvoir lancer ma gamme d'ustensiles qui va à nouveau être en précommande quand même pour aider ce financement. Mais voilà, on va voir si... Le profil financier, c'était pas ma force, franchement. Heureusement, j'ai eu mon mari qui m'a rejoint sur cet aspect-là. Ça a aussi été un frein. Au départ, je trouvais pas l'associé idéal qui me compléterait sur cet aspect financier. que c'est pas un de mes points forts, je me forme, hein. Là, c'est vraiment, je suis à fond dans la compta, le truc, les projections d'objectifs et tout. Mais, ça a souvent été un frein. Je me disais, je ne trouve pas l'associé idéal, je ne vais pas réussir à le faire toute seule.
Parce que pour toi, ouais, c'était trop lourd.
Je pensais que, voilà, il fallait absolument que je trouve quelqu'un de complémentaire. Et finalement, je me suis dit, bah, tant pis, si j'attends l'associé idéal, je ne le trouverai pas et je ne me lancerai pas. Donc, je vais me lancer toute seule. Et ça, c'était vraiment, ça me faisait vraiment très, très, très peur. Mais je me suis dit, bon, je vais faire ce que je sais faire et puis le reste suivra. Et l'univers a parlé. Mon mari m'a fini par me dire, bah, je vois comment tu développes ton projet, j'y crois fort, je te rejoins là-dessus, ce qui était un risque aussi parce que voilà, lui il est aussi entrepreneur, il a un cabinet de conseil.
Il a le temps, la bande passante pour t'aider.
Et ben il l'a pris, voilà. Parce qu'il croyait au projet. Après il est pas à 100% loin de là, mais c'était un peu le chaînon manquant, mais j'avais quand même décidé de le faire seul. Ouais.
Et il t'aide sur quel aspect?
Il m'aide sur tout ce qui est financier, administratif, et aussi quand même stratégie aussi. Il m'aide aussi à prendre un petit peu du recul sur des visions peut-être plus moyen terme ou long terme. Alors que moi, enfin, c'est vrai que je suis tellement dans le moi, je pourrais vivre des retours clients qui me disent qu'ils adorent les clients, qu'ils adorent les produits, quoi, tu vois. Ça me nourrit, en fait, limite. Heureusement qu'il est là pour aussi me donner cet aspect business qui fait que bah, c'est bien de faire des produits magnifiques et qui répondent aux besoins des gens. Mais si derrière, ta boîte n'est pas viable financièrement, bah, les gens n'y auront plus accès. Donc, enfin, c'est...
Et tu t'imagines peut-être où dans 5 ans avec Casa Vida?
Bah, Casa Vida, là, ce qui est génial, c'est que dans l'univers de la cuisine, il y a énormément de produits encore à développer et à aborder. Enfin, voilà. J'ai
plein d'idées.
Plein d'idées de produits. Franchement, faut que je me limite parce que, voilà, je peux en sortir qu'un certain nombre par saison, j'ai vraiment de grandes ambitions, justement parce que en fait, justement, d'avoir les retours clients et de voir le plaisir que les gens ont à utiliser le produit et ce que ça leur apporte en termes de praticité au quotidien, ça me porte et ça m'a donné justement cette confiance de me dire mais j'apporte quelque chose sur le marché, mais même j'aide les gens. Et ça me donne envie d'aller encore plus loin. Et voilà, la première année a prouvé que financièrement, ça suivait aussi parce que la demande était là et parce que je n'ai fait que des produits qui n'existaient pas.
Et moi, quand je me suis lancée, si tu veux, je n'avais pas fait d'école de bijoux, etc. Enfin, et j'ai eu un syndrome de l'imposteur en me disant en quoi j'étais légitime de proposer mes créations. Est-ce que toi, à un moment, tu t'es dit, voilà, je suis pas, j'ai pas fait une école d'ergonomie ou quoi? Est-ce qu'à un moment, tu as été un peu bloquée, enfin, tu t'es mis des barrières mentales, justement, en disant que bah, tu étais peut-être, pas légitime pour le faire ou absolument pas?
Alors, je me l'ai soumise, mais pas sur le produit. C'est-à-dire, par contre, sur le produit, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais convaincue que j'étais la bonne personne pour le faire et que je voyais en fait tout ce qui se faisait sur le marché ne me convenait pas et que je me disais, moi, en fait, par contre, j'ai une capacité à me projeter. C'est comme quand, enfin, je sais pas, on a rénové un appartement, je rentre dans l'appartement, je visualise comment il va être. Enfin, j'ai aucun problème à me projeter. Ma gamme d'ustensiles, enfin, elle était claire et nette dans ma tête. Enfin, il y avait zéro débat. J'ai travaillé aussi avec un cabinet de design, mais j'avais pas du tout ce syndrome de l'imposteur. En revanche, comme je te disais, tous les aspects financiers, aller pitcher et justement, moi c'est cette attitude de l'entrepreneur qui est là, qui doit se vendre lui-même.
en fait, et qui te dit moi j'ai vendu tant de produits, je fais tant de chiffres d'affaires, trucs comme ça, et qui en rajoute toujours un peu et qui passe plus de temps à parler de ses succès que à faire les choses. Ça, c'était vraiment quelque chose qui me un peu contre ma nature, et c'est là où c'est dur et parfois je me sens pas très légitime d'adopter cette posture-là, donc je le fais de façon différente.
Maintenant, j'aimerais te poser quelques petites questions plus sur ton rapport à toi, enfin à ton image. Effectivement, comme tu es sur les réseaux, tu t'exposes, est-ce que tu dirais que tu es sensible au regard des autres ?
À la fois, je suis sensible, mais en même temps, en fait, je crois que le regard le plus dur qui soit, c'est le mien, sur moi-même, en fait. Enfin, je suis très, très exigeante envers moi-même. Notamment, je te disais tout à l'heure que je suis perfectionniste et ça, c'est une barrière que je me mets. Parfois, je vais pas faire quelque chose parce que je vais le commencer et pas le terminer parce que j'estime pas qu'il est parfait. Mais ça va aussi bien quand c'est un objet, c'est super parce que il est parfait et du coup vraiment, enfin c'est très important et c'est une qualité. Parfois, quand c'est pour répondre à un mail, tu vois, ça me prend trop de temps et trop d'énergie. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille, de me dire bon bah.
Tu as t'as une communauté qui est plutôt positive.
Voilà. Alors ça aide vraiment beaucoup. C'est vrai que par contre sur les réseaux sociaux, je me censure pas mal. Je prends pas de position sur des sujets qui pourraient me tenir à cœur parce que typiquement, tu vois, il y a quelque chose auquel j'arrive avec Casavida, qui est par exemple l'écologie. Si je prends l'exemple du zéro déchet, si tu dis sur les réseaux que tu essayes de réduire tes déchets, à partir du moment où tu le dis, tu ne peux plus avoir un morceau de plastique qui traîne sur ton plan de travail, sinon tu te fais mais lyncher, d'accord? Et ça, vraiment, ça me choque, en fait, parce que bon, on fait tous les efforts qu'on veut, voilà. Et là, c'est très difficile de, enfin, t'es dépendant du regard des autres parce qu'il faut que t'aies cette, si tu dis que tu t'essayes de faire mieux.
Faut être exemplaire.
Et ça, ça me gêne vraiment beaucoup. Mais du coup, c'est vrai que là, sur des aspects comme ça, je me censure et je suis sensible au regard des autres ou en tout cas des réseaux sociaux. Mais du coup, je prends une voie détournée et je vais proposer des accessoires justement pour réduire ces déchets avec mon cabas pour aller faire les courses, mais de façon détournée en proposant un bel objet qu'on aura plaisir à utiliser et qui représentera moins une contrainte pour que justement on soit moins dans l'autoflagellation de se dire j'ai encore oublié mais enfin, tu vois, c'est pas. J'ai encore oublié mes sacs de vrac. Voilà, là, je te propose de les avoir toujours dans ton sac. Et en plus, ils sont beaux. T'aurais envie de les utiliser. Mais si un jour tu les as oubliés et que tu t'achètes un sac, enfin, un emballage plastique, ok, that's fine, quoi. Parce que juste, t'es dans la démarche de faire mieux et on peut pas être exemplaire.
Et tu dirais que, par exemple, si tu dois enregistrer une recette, est-ce que tu vas faire attention à la manière dont tu vas te présenter ? Est-ce que tu as une tenue en particulier qui peut te donner de la force ?
Alors, ce qui est sûr, et ça, c'est un peu un problème avec la vidéo que je n'avais pas avant, c'était que avant, quand je faisais des photos, j'étais un peu comme as you are quand tu fais ta recette et puis... T'as pas besoin d'être, enfin que ce soit, voilà, ce qui compte c'est la photo finale du gâteau. Éventuellement, je mettais un petit bracelet ou une petite bague avec la main qui touchait la part de gâteau, mais voilà, j'étais tranquille en termes de tenue, par exemple. Là maintenant, c'est vrai qu'avec les vidéos, les stories, il faut être en permanence en train de te montrer, et c'est vrai que ça me pèse un peu, honnêtement, parce que j'aime bien m'habiller. Cet aspect mode, je l'ai un peu perdu. Avec les années, j'y reviens justement maintenant aussi avec plaisir d'avoir des pièces fortes plutôt que d'accumuler plein de choses. Mais j'ai eu une période où j'étais plus aussi autant à la mode ou à suivre les tendances qu'à d'autres moments. Et je trouve que ça, la vidéo est dure parce qu'il faut toujours être parfait. Et moi, je n'arrive pas à faire une vidéo où ma cuisine est sans dessus dessous. Franchement, ce truc vraiment naturel, honnêtement, ça par contre. Là, le regard des autres intervient, mais c'est moi qui me l'interdis. Je n'arrive pas à le faire. Je pense que les gens penseraient pas grand-chose. Ils se diraient juste, ah bah elle aussi, elle en met partout quand elle cuisine. Mais moi, je peux pas. En fait, tu vois. Et là, tu vois, c'est là que le regard des autres
et challengeant pour moi, c'est que je la vidéo fait que bah là quand tu te montres dans ton intimité, j'arrive pas à montrer n'importe quoi non plus. Mmh. Et ça, ça prend de l'énergie quand même.
Est-ce que tu aimerais montrer un peu plus de toi ?
À la fois oui, peut-être. Enfin, ça me gênerait pas de le faire, mais en même temps, j'ai pas le temps. Voilà. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai que quand je le fais, j'aime bien faire attention à la façon dont je suis habillée, à la présentation. Mais je travaille là-dessus parce que tu vois, j'essaye justement de faire des recettes et tant pis, bah si c'est j'arrive en fin de journée, il y a plus de lumière et c'est sous, je suis juste comme je suis. De toute façon, ça c'est TikTok maintenant avec les, on est sorti de cette esthétique Instagram parfaite où tout doit être parfait. Là, c'est ok que tu t'en mettes. Enfin, limite, il faut que tu t'en mettes partout quand tu manges ta recette et tout. Enfin, il y a ce côté plus authentique qui est sympa. Qui est très dur pour moi, mais je vais y arriver.
C'est tout ce qu'on te souhaite. Eh bien, j'arrive à la conclusion de notre échange. J'aimerais te demander aujourd'hui, est-ce que tu te sens alignée avec toi-même ? Donc, du coup, on a déjà répondu. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin ?
Là, vraiment, en effet, c'est vrai que Casavida, c'est un bébé, donc ça me fait vibrer et justement c'était un peu une fin de cycle, je te disais, ça faisait longtemps que j'étais dans la création de contenu et si j'avais été en entreprise, je pense que j'aurais eu envie de changer de poste ou voilà, moi cette crise de la quarantaine qu'ont pas mal de gens qui à 40 ans se disent je cherche un métier avec plus de sens, j'ai un peu fait le chemin inverse. J'avais déjà beaucoup de sens, parce que bah voilà, je rendais service, je créais des recettes, il y avait tout l'aspect créatif était ok, mais il y a aussi la dimension dans l'entreprise créer une entreprise, une équipe. Ça c'est aussi quelque chose dont j'avais besoin. Et donc voilà, j'avais besoin de ce renouveau et de ce nouveau cycle. Et donc, bah, clairement, là, je suis en début de cycle, mais j'y suis bien et j'ai trouvé ma place, en effet, dans ce modèle. Après, il y a encore beaucoup de choses à ajuster pour me sentir vraiment totalement équilibrée entre vie perso et vie pro. Ça, c'est le seul truc qu'il faut encore ajuster, mais je travaille vraiment beaucoup là-dessus et je sens que j'en suis pas très loin. Et dès que la marque va me permettre de recruter une ou deux personnes de plus, je pense que ce sera mieux.
Bah, c'est top, c'est tout ce qu'on te souhaite. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre au micro de Point Fort ?
Alors, tout à l'heure, quand je suis arrivée, j'ai vu une bougie Mamène qui est une bougie qui a été créée par une de mes copines qui s'appelle Fanny et qui... Elle aussi a cet aspect vraiment durabilité puisque ces bougies sont rechargeables et que le design de ces bougies est magnifique. Et donc, je sais pas, je trouve qu'il y aurait un truc et comme je l'ai vu sur ta table, là, je me dis que c'est vraiment...
Un signe.
C'est un signe. Donc, Fanny, tu seras sûrement la prochaine. Hein.
Bah, merci infiniment, Anne-Sophie, pour toutes ces confidences. On te souhaite vraiment bonne chance dans ton aventure entrepreneuriale et j'invite toutes les personnes qui ne te suivraient pas encore de le faire et d'aller jeter un coup d'œil à tes très beaux ustensiles.
Voilà,
merci infiniment.
Merci beaucoup Margot, j'étais vraiment ravie de discuter avec toi aujourd'hui.
Merci d'être arrivée au bout de ma conversation avec Anne-Sophie. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a montré tout ce qu'il est possible de réaliser en se faisant confiance. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à nous laisser une note de 5 étoiles. Tu peux aussi nous dire ce que tu en as pensé en le repartageant sur Instagram, sans oublier de nous taguer @ocan_studio. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode de Point Fort.